On vous embarque.
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 Culture.
On y était.
Concert.
On y était.
Sortie.
On y était.
Spectacle.
On y était.
Festival.
On y était.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
On vous embarque.
À l'occasion de l'ouverture et de la soirée inaugurale de la 4e édition du festival Les Arts par Nature, le 15 juillet, Pigouille Radio a été convié à partager la table ronde. Un rendez-vous au Grand Théâtre de Verdure, au domaine du Prieuré de la Chaume à Vix, en Vendée. Une table dédiée à l'économie et aux enjeux climatiques avec pour animateur Denis Chessou, le célèbre journaliste de Radio France. Un invité d'honneur, Mohamed Tahabni, spécialiste des enjeux climatiques. Et la participation de chefs d'entreprise issus des domaines agricoles, numériques et industriels qui sont venus témoigner de leurs actions et réussites en matière de transformation résiliente face aux enjeux climatiques. Le sujet est important, intéressant et sérieux au point que Pigouille Radio retransmet aux auditeurs et donc auprès de l'ensemble de la population du Marais Poitevin, entre autres, en deux épisodes, cette discussion.
Alors au moment d'aborder et de construire la 4e édition de notre festival autour des saisons, entre science et art, il nous a semblé essentiel de parler du climat. Sans peur, mais avec la volonté de regarder la réalité en face et d'inviter un spécialiste pour comprendre les enjeux du changement climatique. Pour autant, nous ne voulions pas une vision noire autour d'un constat inéluctable. Nous avons souhaité donner la parole à des acteurs de terrain qui ont réussi des actions résilientes face aux enjeux climatiques dans trois domaines, industriel, agricole, numérique. Je voudrais remercier le Parc régional du Marais Poitevin, son directeur et ses équipes d'avoir accepté d'embarquer avec nous dans ce projet. Le parc est un partenaire de la première heure aux côtés du festival depuis 4 ans et du Prieuré La Chaume depuis 15 ans, engagé conjointement à contribuer à la préservation de la biodiversité dans le Marais Poitevin. Je voudrais remercier Pascal Duforestel et ses équipes pour leur engagement et je laisse à Pascal le plaisir et l'honneur de présenter la table ronde et ses intervenants. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. En effet, comme tu l'as très bien dit, nous sommes partenaires historiques du festival et en l'occurrence, à l'époque, c'était un élu très impliqué dans la vie du parc. Ici, au 1, 2, 3, 4, 4e rang, il fait comme s'il ne me voyait pas, qui est François Bon, qui avait notamment milité pour ce mariage de raison entre un festival en plein cœur du Marais Poitevin et le parc naturel régional. Mais nous avons souhaité aller plus loin qu'un simple partenariat avec une manifestation culturelle importante dans le territoire en initiant cette table ronde. Alors je vais commencer par désobéir parce que je ne vais pas présenter la table ronde et les intervenants car on a embauché quelqu'un qui le fait en général très très bien, il s'appelle Denis Chessou et donc je lui laisserai le soin de présenter l'ensemble des intervenants que je salue néanmoins d'une part pour le travail qu'ils font d'adaptation et d'atténuation du réchauffement climatique, on le verra tout à l'heure. Également l'intervenant que j'ai connu par ailleurs en tant que conseiller régional Nouvelle-Aquitaine, puisque avec 300-400 autres chercheurs, ils ont travaillé à nos côtés pour l'établissement d'une feuille de route, qui est notre feuille de route Néotera, pour savoir comment une région peut répondre, peut travailler à l'adaptation et à l'atténuation du réchauffement climatique. J'en dirai pas plus puisque je suis ici en tant que président de parc à cheval sur deux régions et j'en profite d'ailleurs pour excuser mon collègue Antoine Chéreau, premier vice-président de la région Pays de la Loire qui est empêché pour raison de santé. On va lui souhaiter collectivement une belle convalescence en ce début d'été, mais nous travaillons de concert les deux régions pour de manière différente, avec des process différents, mais par rapport à cet enjeu qui est tout à fait déterminant, qui est l'enjeu climatique. Moi, j'ai l'habitude de dire et de répondre à l'invitation de ne pas tomber dans un défaitisme et une noirceur par rapport aux enjeux climatiques. Nous sommes dans un parc au cœur des problèmes, mais nous sommes une partie de la solution, notamment grâce à la capacité que nous avons de captation carbone. C'est une des solutions que nous offrons, mais également par de nombreuses autres solutions que l'on évoquera, notamment contribution à la production énergétique, notre contribution à l'utilisation des écomatériaux, et j'en passe, et des meilleurs. Et à ce titre, nous nous engageons, et je salue dans l'assistance la présence de la directrice Sandrine Guineuf et de Amalia, qui actuellement travaille un projet que nous allons soumettre à l'Europe, qui est un projet de programme LIFE autour des enjeux climatiques. Et s'il s'appelle LIFE Gouvernance Climat, c'est parce que notre ambition, c'est d'aller au-delà de l'acculturation de nos simples conseillers syndicaux. C'est une première étape importante que l'ensemble des délégués au parc, donc l'ensemble des 88 délégués des mairies, désormais des intercos, des départements et des régions, soient au fait et participent d'une solution globale. C'est notre projet de territoire et c'est le travail d'un parc. Mais nous sommes aussi convaincus qu'aujourd'hui, ça passe par l'association de l'ensemble des habitants et qu'il ne suffit plus d'être une petite équipe d'élus plus ou moins éclairés sur une problématique aussi importante. Il nous faut entraîner l'ensemble et embarquer l'ensemble de la population et pour cela donner des éléments de connaissance, les partager. Et c'est tout l'enjeu du programme LIFE que nous allons déposer. J'espère que nous serons retenus dans ce contexte. Sur ce, je vais tout de suite passer la parole à Denis pour faire le travail que je n'ai pas osé faire pour éviter une erreur diplomatique. Et à propos d'erreur diplomatique, je ne peux que saluer l'arrivée du conseiller départemental de Vendée, membre du bureau du parc, qui est en train d'essayer de trouver une place au vu de l'affluence. Voilà.
C'est réussi. Merci beaucoup, cher président du parc naturel régional, donc cher Pascal Duforestet, donc conseiller régional. Alors oui, effectivement, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller se gratter pour se faire souffrir avec les sujets que nous allons aborder, à savoir le réchauffement climatique. Figurez-vous effectivement que la femme et l'homme sont des animaux absolument géniaux. Nous avons été absolument capables d'inventer des sciences avec leur corollaire qui est la technique, alors à la fois pour le meilleur et pour le pire, mais peu importe. Nous avons inventé les arts, nous avons inventé l'empathie aussi. Je pourrais décliner beaucoup de choses. Bref, on est des animaux géniaux. Simplement, on a un seul problème. C'est que l'être humain est surtout occidental et surtout depuis une centaine d'années est globalement inapte à la limite. Et donc être inapte à la limite, ça veut dire qu'effectivement, on a déréglé le thermostat de la planète. On a déréglé l'hydrologie aujourd'hui. L'eau va être de toute façon un des premiers marqueurs du réchauffement. Avant, c'était les dates de vendanges, etc., que l'on connaissait. Mais l'eau va être une obsession pour tous les territoires mondiaux aujourd'hui. Est-ce pour autant effectivement la fin du monde ? Non, parce qu'on ne serait absolument pas là. Mais quand même, Michel Serres, donc un peu voisin, donc un peu plus bas dans le Lot-et-Garonne, me disait donc tu comprends, la fin du pétrole, c'est pas la fin du monde. En revanche, l'eau, ça va être un vrai problème. Et c'est vrai qu'Éric Orsenna aussi donc le décline. Pour autant, ça va passer par les territoires. Ça va passer par le monde de l'entreprise. Ça va passer par le monde de l'agriculture. Ça va passer par les citoyens. Et effectivement, ce qui manque beaucoup, c'est de la pédagogie, parce que comme on doit avoir comme seul indicateur le PIB qui a rempli sa fonction après-guerre, mais qui aujourd'hui est totalement insuffisant, on n'y arrivera pas. Donc maintenant, il y a d'autres critères qui arrivent. Et puis on a des jeunes derrière qui poussent. Et ça, c'est drôlement intéressant. Alors, ça va se passer en deux temps. Il va y avoir donc notre table ronde avec nos amis ici présents, que je vais vous présenter au fur et à mesure, donc qui sont des entrepreneurs tous, Et ça nous plaît parce qu'on est dans une terre à la fois vendéenne et des Deux-Sèvres, etc. Donc l'esprit d'entreprise, on le connaît bien. Donc on ne baisse pas les bras. Et puis au début, on va commencer donc avec vous, Mohamed Tahabni, parce que donc là, on a envie d'avoir quelqu'un d'éclairé, un peu plus que nous, sur un enseignant-chercheur en géographie environnementale et aménagement à Poitiers. Vous avez travaillé aussi dans un laboratoire sur la ruralité, donc déjà depuis un certain temps, et vous connaissez bien donc ces sujets du réchauffement climatique. On a envie d'avoir peut-être d'abord effectivement un état des lieux, puis après on va le décliner sur ce qui se passe sur ce territoire, donc de plus de 6000 km², qui est donc votre parc naturel régional. Qu'est-ce que l'on peut faire? Et après, concrètement, on va voir comment on met les mains dans le cambouis, comment on peut faire, et même aussi de se rendre compte que ça peut être un bénéfice. Que ça a toujours été comme ça. L'être humain, de toute façon, il a besoin de choc pour bouger. Là, on y est dedans. Alors, notre génération, si vous voulez, la nôtre, passera au travers des gouttes, si j'ose dire, mais nos enfants et nos petits-enfants, pas du tout. Donc, effectivement, quelle habitabilité du vivant on va pouvoir leur laisser? Mais il y a des possibles. Une fois de plus, et pour ça, de marier, je trouve, à la fois les sciences, les arts et le monde de l'entreprise ici, je trouve ça quand même assez génial. Alors Mohamed, prenez ce micro. Quelques rappels, on va dire, un peu fondamentaux sur ce qui se passe aujourd'hui. Parce que quel climat voulons-nous? C'est un véritable choix de société. On ne vous pose pas la question comme ça, mais c'est une réalité. C'est-à-dire, quelle société on veut effectivement pour demain? Et derrière tout ça, l'énergie qui a été une chose extraordinaire, l'avènement de la machine à vapeur, puis après du pétrole et du gaz, ça nous a rendu mais des services de folie, soyons très clairs. Seulement derrière, évidemment, je vous le disais, on a déréglé le thermostat de la planète. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui sur un état des lieux, aujourd'hui, de ce climat? Alors, bon, on le voit mondialement, ça se réchauffe partout. Après, on arrivera évidemment sur ce territoire, mais qu'avez-vous envie de dire?
Oui, merci pour les organisateurs de me donner l'occasion de m'exprimer. Plutôt au nom d'Aclimatera, qui est un GIEC, qui se veut un GIEC régional, hein, donc c'est-à-dire essentiellement un organisme qui fait appel à tout un panel de scientifiques. Hein, donc Pascal l'avait rappelé, entre 200 et 300, qui font le point sur les enjeux et face aux impacts du changement climatique en Nouvelle-Aquitaine. Donc par rapport à ce qui se passe, globalement, l'homme a bénéficié pour le progrès des énergies fossiles. La combustion des énergies fossiles a été, après la révolution industrielle, un booster. Sauf que on n'avait pas du tout raisonné par rapport à l'interdépendance des phénomènes et aux effets cumulatifs de ce qu'on a libéré dans l'atmosphère comme gaz à effet de serre. Donc, maintenant la science a été capable de démontrer que l'homme est devenu une force majeure de transformation de la planète. On parle de l'anthropocène, c'est-à-dire l'ère de l'homme. L'homme est devenu une force géologique et à partir du moment où on a artificialisé très largement la Terre, maintenant on commence à en ressentir les effets négatifs. Alors, par rapport au climat, cette question d'interdépendance renvoie aux phénomènes qui sont systémiques. C'est-à-dire que ce qu'on fait ici, en ce point précis, nos actes ont une répercussion qui va se cumuler à l'échelle planétaire. Et donc, notre mode de vie, notre consommation, notre modèle d'évolution, eh bien, il va avoir des effets qui seront maintenant, qui ont été démontrés qu'ils sont un élément de la complexification de la transformation en fait de notre climat. Donc on parle de dérèglement climatique, de réchauffement climatique, peut-être le terme de réchauffement climatique est le plus approprié puisque à l'échelle de la planète on est à 1,2 degré par rapport à la période pré-industrielle. En France, on est à 1,3 ou 4. Et en Nouvelle-Aquitaine, on est à plus 1,5 actuellement. Donc, cette augmentation de la température, on la ressent. Ça, c'est une température moyenne. C'est une moyenne statistique. Mais en réalité, c'est pendant le printemps et l'été qu'on va le ressentir à travers ce qu'on appelle les événements extrêmes. Hein, donc, les canicules de plus en plus longues, de plus en plus précoces. Et juste un petit mot, l'Union européenne a estimé récemment que la canicule de 2022, c'est 65 000 personnes qui ont perdu la vue à cause donc, de problèmes respiratoires, etc., à l'échelle de l'Union européenne.
Alors, Mohamed, juste rappeler évidemment, mais très très vite, parce que je pense que vous êtes plus ou moins au point, et c'est normal, on a des degrés donc, de connaissances qui peuvent être différents. La météo, c'est ce qui se passe sur le pas de votre porte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu 5 ou 6 degrés de moins par rapport, si vous voulez, à hier. Ça, c'est la météo. Ils ont fait de sacrés progrès depuis très longtemps en météo France, ça faut bien leur rendre hommage. Le climat, c'est une compilation donc, de différentes sciences sur au moins minimum 30 ans. Alors quand on parle bien effectivement d'un degré et demi, ce n'est pas de la météo. Et c'est là que ça rigole pas. Si vous voulez, lorsque vous étiez à l'époque de Lascaux, tiens, il y a moins 18 000 ans à peu près, souvenez-vous, nous y étions tous, à la place d'avoir des touristes anglais dans le Périgord chez nos amis voisins, il y avait des bisons et des mammouths. Bon, là, on était évidemment sur des températures qui étaient de moins 3, moins 4 degrés de climat. Donc, c'est pour vous dire que c'est évidemment extrêmement important. Lors du petit âge glaciaire, c'est-à-dire entre 1550 et 1850, ça, c'est le roi Ladurie, comme historien, qui a dépassé les 100 ans, qui s'est emparé de ça. Ça a donné évidemment des famines aussi à l'époque de Louis XIV. Il n'y avait que 1,5 degré en moins. La grande différence, c'est qu'il n'y avait pas exactement le même nombre d'individus sur Terre. Nous, on est nés, il y avait à peu près, on va dire, si je fais une moyenne, en vous regardant comme ça, pas les tout jeunes, hein, mais ceux qui sont nés en l'an 2000, il y avait 6 milliards d'individus sur Terre. Nous, quand on est nés, il y avait 2,5 milliards d'individus sur Terre. Donc ça va très vite. Et pourquoi ? Parce que justement, l'énergie pas chère a permis effectivement d'avoir une autre forme d'agriculture, une autre forme de consommation, une autre forme de mobilité. Et une fois de plus, on ne va pas fustiger nos anciens parce que ça servirait strictement à rien. Mais aujourd'hui, on a effectivement un constat. Donc, au lieu de se faire... Moi, je vois une jeune fille là qui est là. Mais si. Parce que éventuellement, tu peux avoir le droit d'en vouloir à tes parents ou tes grands-parents. Pourquoi pas ? Tu vois ? Non, mais oui, on l'entend. En disant qu'on a été inconscient, alors que déjà depuis 1992, c'était la première COP qui avait lieu à Rio. Donc là, on savait véritablement. Et je suis sympa parce qu'on le savait déjà bien avant. Bon, moi, quand j'ai commencé mon émission sur France Inter, CO2, mon amour, justement en 92, les gens, si vous voulez, ne faisaient pas la différence entre le brame du cerf et l'effet de serre. Hein. Et Michel Serre, bien sûr, aussi, tant qu'à faire. Oui, on fait le cher Michel que j'ai... voilà. Bon, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, les gens sont à peu près au point. Alors, on va essayer, effectivement, d'éviter la crainte. Quand même, aujourd'hui, quelles sont, je dirais, nos faiblesses et nos atouts ? Parce que on se rend compte qu'il y a une rapidité des phénomènes. Ça, il faut vraiment le prendre en compte. Il y a eu une accélération du réchauffement. Depuis déjà une trentaine d'années, ça a été très, très vite.
Oui, tout à fait. Dans la presse, sur les médias... Un terme qui revient maintenant, c'est l'urgence. L'urgence pour les territoires, l'urgence d'agir massivement, c'est-à-dire de mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui ont été décidées, ratifiées, lors de la COP 15, les accords de Paris, hein, en 2015. Donc, ces actions,
et ça nécessite de se réchauffer depuis.
Ça nécessite de réchauffer. Il y a eu pendant le Covid, hein, donc 2020-2022, on a à l'échelle de la planète, il y a eu une réduction de 2,5% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Mais tout le monde se rappelle, c'était l'arrêt quasiment d'activité économique,
de la mobilité, qui est le poste numéro 1,
etc. Donc voilà. Mais ça nous montre en fait. En termes d'efforts, si on veut décarboner, les efforts qu'il faudra faire en termes de choix économiques, de bascule vers une autre forme d'énergie consommée, une autre forme de mobilité, une autre forme de production au sens très large. Et voilà, donc les scientifiques ont dit, si on veut rester en dessous de 2 degrés en 2100, ça veut dire qu'il faut faire un effort de décarbonation extrêmement important. Ça veut dire que d'ici 2050, il faudrait, à partir de 2050, on sera, pour récupérer tout ce qu'on a émis, avoir des émissions négatives. Donc, voilà, fondamentalement, tous les pays doivent faire cet effort pour inverser les choses. Ça veut dire que, de toute façon, par les effets d'inertie, même si on arrête tout actuellement, on aura à minima 2 degrés en 2100. Ça veut dire que pour l'Europe et pour l'Europe du Sud, c'est 3,5 degrés en augmentation de température moyenne de plus. À l'échelle planétaire, l'estimation de 2 degrés, quand on la décline au niveau des territoires, pourtour méditerranéen, Afrique subsaharienne, région tropicale, etc., la modulation de cette température va varier selon les climats qui existent déjà. C'est-à-dire que l'Afrique subsaharienne, par exemple, ou si je prends le Maghreb, les températures de 50 degrés, on les aura sur 2 mois à 3 mois. Donc, dans cette bordure sud de la Méditerranée.
Non, mais traduction, ça veut dire que c'est inhabitable.
Voilà, et on commence à penser que la région équatoriale, beaucoup, des millions de personnes seront extrêmement rendues vulnérables à cause du taux d'humidité dans l'atmosphère. On n'arrivera plus à transpirer dans ces régions-là, et donc... Si on ne transpire pas, on ne peut plus réguler la température du corps.
Alors, c'est vrai qu'il y a quand même une...
Ça, c'est un exemple uniquement par rapport à la température. Donc, la volonté par rapport à ce que les préconisations dans le sixième rapport du GIEC, il y a l'AR6 qui fait une évaluation des actions qui ont été menées depuis les accords de Paris en 2015 et qui donne les voies d'adaptation. Par rapport aux actions urgentes, c'est la décarbonation, c'est les énergies vertes, c'est l'accompagnement vers la sobriété dans tous les secteurs, hein, mais fondamentalement, c'est de revoir à travers les actions de tous les acteurs, hein, y compris, vous l'avez dit, hein, citoyens, quelles sont les possibilités d'amortissement, hein, donc de ralentissement de l'économie, sans décroissance, hein, je veux dire, mais en basculant vers un modèle d'économie plus fondée sur...
Solutions fondées sur la nature.
Solutions fondées sur la nature, la neutralité carbone et tout ce qui est biosourcé et recyclage. Et, voilà. Donc, tous ces éléments-là sont prendre en compte. Parce que les ressources de la Terre, de toute façon, sont finies. Et le modèle néolibéral ou libéral qui dit, moi, je mets un produit sur le marché, s'il marche, tant mieux, s'il ne marche pas, je passe à autre chose.
Ça, c'est le vieux monde.
Ça veut dire qu'il faut revoir réellement les capacités de la planète à subvenir aux besoins d'une population qui est déjà à 8 milliards, mais par rapport également à l'habitabilité. C'est vraiment le terme, l'habitabilité, par rapport à une terre plus chaude, aux événements extrêmes. Et à une complexité, c'est-à-dire que les niveaux d'incertitude, même pour la science, sont encore là. Hein, ça veut dire que les modèles de prévision du climat tournent en gros sur le scénario moyen de 6.5. Hein, on appelle ça le RCP 6.5, c'est-à-dire une quantité de chaleur, de watts par... reçu par la Terre par mètre carré. Hein, donc la transcription physique de cette RCP, c'est ça. Donc si au-delà, on ne peut plus prévoir quels seront est-ce qu'il y aura encore des courants marins, est-ce que le Gulf Stream circulera de la même manière ou il va disparaître, et donc ça modifiera totalement le climat de l'Europe de l'Ouest. Est-ce que la circulation atmosphérique générale, les phénomènes El Niño, El Niña, les oscillations nord-atlantiques, etc., tous ces éléments qui commandent les types de temps et la circulation atmosphérique, les modèles ne peuvent pas les prévoir si on bascule, si on ne fait rien. Hein, si on ne fait rien et bon, on va vers...
C'est-à-dire que là, on commence à être dans une zone un peu qui est en dehors du contrôle de l'humain. C'est quand même un petit peu ça, la réalité. Ça, on ne le dit pas. Est-ce qu'un monde, si vous voulez, à 2 degrés, les 2 degrés, notre génération le verra. 1,5 degré, on va y arriver à peu près en 2035-2040. 2 degrés, on le verra. On sera peut-être davantage vieux, mais évidemment, on le verra. Est-ce qu'un monde, j'ai vu ça dans Le Monde et dans Figaro il n'y a pas longtemps, est-ce qu'un monde à 2 degrés est assurable ? Moi, je dis très souvent que si les politiques ne font pas leur boulot, ce qui n'est pas le cas ici, parce que sinon on ne serait pas réunis, mais si un monde à 2 degrés n'est pas assurable, qu'est-ce que ça va être ? Ça a commencé, c'est-à-dire en Californie, en Floride, vous avez des coins où les réassureurs, ils seront une vingtaine à peu près dans le monde, les réassureurs, donc les réassureurs de la Maïf, etc. Donc c'est la Lloyd, c'est Swiss Re, c'est Münch Re, ont décidé de ne plus assurer un certain nombre de coins déjà du monde. Bon, ça fait déjà 15 ans qu'ils ont fait une cartographie, par exemple, de l'Europe, kilomètre carré par kilomètre carré, ici compris, pour savoir si vous êtes une zone de submersion, une zone d'inondation. Je ne parle pas des inondations naturelles, évidemment, du marais Poitevin, c'est encore une autre histoire. Pas des crues d'antan, zone d'incendie, etc. Et est-ce que nos démocraties vont pouvoir tenir aussi avec ça ? Ça n'a pas rigolé, hein, donc c'est ça. Et pour autant, il y a quand même un avenir, je te rassure, voilà, il y a des choses à faire. Mais le monde dans les 20 ans qui viennent, de toute façon, sera très différent, même des 30 dernières années. Alors il y a deux choses, il y a l'atténuation. Alors l'atténuation, ça veut dire qu'on travaille pour toi et pour tes futurs enfants. J'espère que tu en auras, que tu décideras d'en avoir, peut-être. Bon, je ne sais pas. Bon. L'atténuation, nous, on ne le verra pas. C'est-à-dire qu'on va diminuer, on essaye de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Avec notre comportement, avec ce qu'on appelle de l'organisationnel, autrement dit, c'est un peu le rôle aussi du politique au sens large, et puis aussi de la technique. La technique seule, je vous fais un résumé tout de suite, ne va pas nous sauver. Elle sera nécessaire. Mais de penser que seule la technique va nous sauver, je suis désolé pour les quatre technicistes qui sont purs et durs dans cette merveilleuse salle à ciel ouvert, mais ce ne sera pas suffisant. C'est l'ADEME hein, qui le dit, c'est vraiment pas du doigt mouillé, des colos, de choses comme ça, pas du tout, c'est comme ça que ça se passe. Alors aujourd'hui, on va dire que pour faire très simple, à retenir la rapidité des phénomènes, l'amplification des extrêmes, c'est-à-dire que les endroits où il fait sec, il fera de plus en plus sec, et les endroits où il pleut, il pleuvra davantage. On peut dire ça. Enfin, je suis sans nuance là, mais c'est pour retenir des grandes idées.
Oui,
quoi.
Pour les signaux climatiques, si je prends la France ou l'Union européenne, globalement, on reste dans une variabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tendance à la diminution des précipitations. Sauf que l'évapotranspiration sera de plus en plus forte. Et donc, finalement, la pluie efficace qui va alimenter les nappes et les sols, elle sera insuffisante puisque beaucoup va repartir dans l'atmosphère, qui, atmosphère plus chaude, va emmagasiner plus et donc elle va, l'atmosphère elle circule, donc les circulations atmosphériques et donc les pluies ne tomberont pas forcément là où elles tombent habituellement. En revanche, on aura de plus en plus d'épisodes violents de précipitations. Donc, pluie torrentielle, avec crues éclairs, orages. Donc, on commence à avoir un petit aperçu, voire des tornades. Donc, parce que tout simplement, les différences thermiques seront très accentuées. Et finalement, en tout cas, ce qui est traduit par la variabilité, par le changement de régime, des températures et des précipitations, ça se traduit par une moindre alimentation des cours d'eau et donc par rapport au débit. Les débits, je prends la Charente ou la Dour d'ici 2050, c'est entre moins 20 et moins 30%. Pour la Dour, c'est moins 40%.
C'est moins 40% pour la Dour,
voilà,
c'est ça.
Voilà, la Dour, c'est moins 40% parce qu'il y avait le château d'eau des Pyrénées qui va disparaître. Hein, il y aura une fusion moins d'enneigement, etc.
Il reste 20 km² de glaciers dans les Pyrénées. Donc
voilà, les glaciers pyrénéens auront disparu largement avant 2050. Et la recharge des nappes, c'est entre moins 10 et moins 20% à pluie constante, parce qu'il y aura trop de prélèvements la capacité évaporatoire de l'air. On aura des températures plus élevées, des hivers plus doux, et donc on aura des assecs, hein, des étiages beaucoup plus prononcés, beaucoup plus lents et beaucoup plus précoces. Je ne parle pas des têtes de bassin, les petits ruisseaux ceux-là ils seront condamnés. Et donc, il y a des espaces patrimoniales très importants dans les têtes de bassin qui sont les moins polluées. Hein. Je prends les crevisses à pattes blanches, etc., donc dans les Deux-Sèvres. Mmh. Voilà, donc cet effet-là sur l'eau, sur les régimes. Voilà, ça c'est par rapport aux températures. Mais bon, il y a un effet sur les océans. Hein. L'océan s'est réchauffé de plus de 1,5 degré.
C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'il va pouvoir capter demain comme CO2 aussi. Voilà. Parce que là aussi, il en a un peu ras la gueule. Nos puits de carbone, ce sont à la fois les océans d'un côté,
les forêts, les sols.
On va pouvoir en parler parce que là, vous avez quand même une richesse tout à fait intéressante.
Les prairies que vous avez ici. Effectivement.
Mais on est encore sur les zones d'incertitude, c'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'à quand ça va pouvoir capter nos excès de CO2. Voilà. Actuellement, on est à 50% d'excès d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à ce que la Terre peut emmagasiner. Hein. C'est à peu près ça. Donc,
ouais. Les forêts... Si le stress hydrique est trop prononcé, elles vont plus émettre de CO2 qu'elles vont stocker. Déjà, voilà, ce n'est pas tout à fait un puits de carbone permanent. Et on l'a remarqué déjà, même pour l'Amazonie, dans les périodes, certaines années sèches, en Amazonie, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup moins de stockage de CO2, il y a au-delà des dépérissements, etc. Donc, il y a quand même, dans la physiologie, des arbres, donc il y a quand même un côté équilibre par rapport à la température, etc. Mmh. Donc l'autre élément, vous m'avez dit les sols,
voilà.
Le dessèchement des sols, plus de vie, réduction de la vie bactérienne, minéralisation de la matière organique, elle va donc de nouveau repartir. Les sols, donc perte en capacité nutritive des arbres donc et pour la production agricole. Donc les sols seront un des éléments importants. Donc tout le recyclage de la matière organique et la conservation par les sols va être impacté de manière très importante. Et si je prends les zones humides ou les prairies humides ou les tourbières, si elles se dessèchent, là aussi, elles vont de nouveau larguer plus de CO2. Et alors, elles perdront justement cette capacité.
Ce que l'on craint, c'est tous les effets d'emballement, en fait. Voilà.
Voilà, c'est les effets de bascule.
Les effets de bascule. Et
effectivement, ce qu'on appelle les effets de bascule qui peuvent être en cascade. Par exemple, si toute la banquise était en fusion, ouais. elle ne se renouvellerait plus. Et donc, c'est l'océan qui va capter plus de chaleur et donc ça va induire un effet en cascade par rapport à l'environnement immédiat arctique, etc.
Alors,
si la banquise, si la cale glaciaire du Groenland ou du... C'est 3000 mètres d'épaisseur sur le Groenland et sur l'Antarctique, c'est plus de 3 mètres, entre 2 et 3 mètres de relèvement du niveau marin. Les estimations pour l'instant, si on garde 2 degrés, c'est à l'horizon 2100, une élévation du niveau des mers de 0,60.
Bon, écoutez, ici, de toute façon, voilà. Ils ont l'habitude, parce qu'il y a plein d'anciennes îles calcaires, hein, ici, donc avec les Pictons, etc. Et tout. Voilà. Donc, on regarde la carte, il y a quand même 10 000 ans, etc. Et tout. Vous étiez truffé d'îles.
Au golfe des Pictons.
Mais oui, absolument. À Maran, on était sur une presqu'île, enfin, etc. Donc, voilà. Alors, on va essayer de se le faire rapidement, parce que sinon, je te couperai la parole. Mais je pense que tu vas avoir un esprit de concision absolument remarquable, cher Mohamed. On regarde maintenant le territoire. Notre boussole Néotera. Je tiens à préciser quand même que la région Aquitaine a été une des premières, si ce n'est la Nouvelle-Aquitaine, pardon, a été une des premières en France à s'emparer de ça. Donc Alain Rousset, effectivement, qui est un homme qui, moi, j'ai connu très, très techniciste, on va dire, etc. et tout, s'est emparé maintenant. Il a compris effectivement qu'il faut faire aussi avec la nature, etc. Donc ça, c'est quand même une boussole qui est extrêmement importante. Ça veut dire qu'on essaye maintenant d'éviter le mal aménagement. Hein, qu'on a fait partout, donc ça a été ça. 30% quand même de nos communes sont dans des zones inondables, hein, juste comme ça en France. Et encore, il n'y a pas tellement longtemps, on délivre encore des permis de conduire. J'ai vu ça du côté d'Aubagne, sur des coins bien, bien pourris. Je referme la parenthèse. On a des outils, donc territoires locaux, les plans climat, air, énergie. Je ne veux pas rentrer dans le détail de tout ça. On va parler d'adaptation. Je disais atténuation. Alors atténuation, ça veut dire qu'on essaye de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre pour que tu puisses en profiter dans 20 ans, 30 ans, 40 ans et encore plus pour tes enfants. Nous, on n'en verra pas la couleur de l'atténuation. En revanche, l'adaptation, c'est maintenant. effectivement, c'est s'adapter effectivement aux événements. Alors là, on a différentes choses. On va cliquer parce qu'on a, alors, nos zones humides, on y va. Hein, marais Poitevin quand même. Alors,
très bien.
Marais desséché, ok, oui. Parfait. Nos 18 000 hectares aussi de marais mouillés. Le rôle, en quoi ça peut être bénéfique?
Alors, les aménités, on peut dire, hein, ou les services écosystémiques.
Allez, on y va.
Un terme un peu plus savant. Donc, les services rendus par les écosystèmes du marais Poitevin, c'est d'abord justement ce côté composition zone humide très importante, donc prairie humide, bien sûr, c'est ce côté puits de carbone et deuxièmement, tout ce qui est relatif à la biodiversité. Hein, biodiversité aquatique, mais pas seulement, il y a la biodiversité locale, il y a les migrateurs, on est inséré dans les flux d'oiseaux, hein, donc voilà.
Qu'est-ce qu'on a intérêt à faire avec nos zones humides?
Déjà, c'est de les conserver.
Oui.
C'est de les conserver, absolument. Donc, bien sûr, ça veut dire pas de drainage, pas de conversion.
Non, parce qu'on a eu de cesse, mais partout, de faire l'inverse. C'est-à-dire que pendant 50-60 ans, il s'agissait d'embarquer l'eau douce et de l'envoyer le plus vite possible à la mer.
Voilà.
Donc, alors que le sol est le premier réservoir, la première bassine, hein, ça vous parle ici, c'est le premier, c'est le sol.
Voilà. C'est gérer en fait l'eau à la fois dans ses excès, éviter quand même les submersions, les inondations par l'eau douce. Hein, donc ça reste quand même encore possible, hein, même au niveau du marais Poitevin, au niveau de la Sèvre. Lui donner le temps de s'infiltrer, c'est-à-dire que ralentir les écoulements, hein, c'est essentiellement ça. Je pense qu'il y a encore des zones où qu'on essaye de recréer, mais elles existent dans le marais Poitevin, les zones des, comment on appelle ça, les zones de d'épandage de crues, hein, les zones tampons. Donc voilà, c'est redonner les services de naturels que jouent les zones humides.
Donc
rôle d'éponge, rôle de régulation et de ralentissement de transfert vers les exutoires, hein, vers la mer. Ceci dit, dans la baie de l'Aiguillon, il y a de l'élevage de moules, etc.
Oui,
il faut,
qui a besoin
il faut
d'eau douce,
de l'eau douce,
bien sûr.
En particulier en été. Il faut quand même qu'il y ait un apport d'eau douce. Alors, il y a un peu moins de conchyliculture, mais même pour les moules, elles ont besoin d'un équilibre eau douce, eau salée, en tout cas.
Et notre entrepreneur qui va nous parler d'huîtres, tout à l'heure, je vous fais un peu de teasing et vous allez voir ce qu'il fait. Donc, effectivement, avec des huîtres, il va vous dire, oui, mais il y a besoin d'eau douce aussi pour les huîtres. Il aura absolument raison pour qu'elles se développent. La disponibilité en eau, où est-ce que l'on en est, on va dire, dans ce secteur? Donc, l'évapotranspiration, tu en as parlé.
Oui.
On est quand même à moins 25-30% sur les eaux de surface. Les nappes, c'est entre moins 10 et moins 25. Qu'est-ce que l'on peut dire pour la disponibilité en eau?
Donc, dans le système, on peut dire, marais Poitevin, vous avez la partie axiale et... je dirais un peu les zones périphériques. Les zones périphériques ont été converties depuis pas mal de temps, déjà depuis longtemps, à d'autres formes d'agriculture et qui maintenant ont besoin d'irrigation, etc., par rapport au modèle. Donc cette question va toucher essentiellement les ressources des nappes souterraines et la demande et l'offre, hein, réellement. Donc, toutes les nappes, elles sont trop sollicitées. Hein. Donc, il y a des captages qui sont prioritaires, mais qu'il faudrait protéger donc, et garder cette ressource par rapport au multi-usage, hein, si possible. Pour la partie axiale, globalement, je pense que la dynamique, en tout cas de maintien des marais mouillés, des prairies humides, de tout ce qui est ripisylve, globalement, elle est encore assez maîtrisée, même si, en termes d'élevage et donc d'entretien de ces prairies humides et du système, en tout cas, d'élevage, commence à poser des problèmes, puisqu'effectivement, il y a une déprise, et donc, que deviendront ces espaces-là? Donc, on retrouve dans le marais Poitevin, cette construction humaine qui a d'abord été la poldérisation et la conquête des terres et la gestion hydraulique par rapport aux inondations, mais par rapport aussi à la remontée des marées, enfin tout le système de gestion des eaux excédentaires, et, etc. Et donc, fondamentalement, les enjeux ici, c'est de maintenir à la fois le fonctionnement de ces écosystèmes et de ces terrains par rapport aux services écosystémiques, hein, donc biodiversité, mais aussi stockage du carbone, peut-être aussi un jour payer pour services environnementaux, hein, donc c'est donner des compensations, peut-être également tout ce qui est espèce, comment dire, paysage patrimonial, hein, tout, les frênes, têtards, etc. Peut-être aussi végétaliser un peu plus encore en termes de boisement, et puis tous les espaces dans les marais desséchés, c'est remettre du bocage, remettre des haies absolument qui ont un apport énorme en termes de régulation du ruissellement pour la faune, pour les pièges à nitrates et pièges à tout ce qui est, on peut dire, produits phytosanitaires.
Alors là, c'est vraiment du politique parce qu'on a balancé, si vous voulez, 60% de nos haies en l'espace de 70 ans quand même dans ce pays. Il fallait produire. L'agriculture a répondu de toute façon très bien, évidemment, à la sortie de la guerre. Je repasserai après. Ça, c'est pour Wilfried, tout de suite, parce qu'il est agriculteur et que ça nous intéresse bien d'avoir son avis. Donc, il ne s'agit pas de revenir. Effectivement, la France crevait de faim à la sortie de la guerre. Ils ont réussi. Il y a eu le rapport Pisani. Alors, Pisani, évidemment, donc, est arrivé aussi à la fin de sa vie en disant « mea culpa, on avait quand même un petit peu déconné, quoi, parce que tellement on en a... Effectivement, on a intensifié comme des malades. » Voilà, c'est exact que le système de la coopérative aujourd'hui, ce sont des outils financiers. Bon, alors que l'idée de coopérative au départ, elle était formidable. Je ne fustige pas les agriculteurs, moi je suis petit-fils d'agriculteur dans le Tarn. Mais donc j'ai bien vu effectivement toute l'évolution. Wilfried Dubois, ça nous intéresse tout de suite là, d'avoir votre témoignage, que vous êtes, vous, à Longeville-sur-Mer. Bien plus bas là, donc vous êtes arrivé ici, donc en Baie-d'Aiguillon. Vous êtes agriculteur, éleveur de bovins, vous faites de la polyculture, vous n'irriguez pas. Hein, donc c'est ça. Alors racontez-nous aujourd'hui, quelles sont vos pratiques, parce que là on a besoin de savoir comment un éleveur comme vous, qui fait de la bonne viande, habit vegan dans la salle. Bon, comment ça se passe? Comment vous arrivez, je sais pas, à travailler avec des bêtes qui de toute façon vont boire entre 40 litres et 100 litres par jour, me semble-t-il, en moyenne, suivant la chaleur qui fait. Comment on fait chez vous? Voilà. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui?
On fait rien de spécial. Finalement, on travaille avec la nature nous depuis longtemps. On observe nos animaux, on observe nos prairies, on observe les cours d'eau. On adapte notre production en fonction de ce que la nature nous offre, en fait. C'est tout.
Oui, non mais quand même, là vous êtes quand même assez modeste parce que vous avez donc des charolaises, 270 hectares quand même.
Oui.
Bon, alors ils ont de la place, hein, ils sont tranquilles. Je ne sais pas combien vous avez de bêtes à l'hectare.
On est sur un système très extensif, donc on a 1,4-1,5 animaux par hectare.
Oui, ça va. Là.
Et donc en fait, on a adapté notre système en fait depuis une vingtaine d'années. Effectivement, entre mon père et mon grand-père qui cultivaient du maïs, avec une agriculture, un élevage un peu plus intensif, on a rétro-pédalé en fait. On a l'apparition des mesures environnementales. On a commencé à modifier notre système progressivement. Ça fait maintenant, moi, 20 ans que je fertilise plus du tout mes prairies de marais. J'ai une petite partie bocagère sur l'exploitation, où est mon siège d'exploitation, mais sinon, on fertilise plus le marais depuis 20 ans, quoi. Et il a fallu 5-6 ans pour que le milieu s'adapte à la non-fertilisation. En fait, la flore des prairies a mis 5-6 ans avant de se métamorphoser. Aujourd'hui, on a des prairies qui sont aussi productives que des prairies qui sont fertilisées. Mais il a fallu une bonne dizaine d'années avant d'en arriver là, quoi.
Est-ce que vous êtes un ovni ou bien est-ce que... Parce que chez vous, il y a quand même de moins en moins, évidemment, malheureusement, d'éleveurs. C'est quand même une population qui est en train de se casser la figure vraiment, vraiment très très vite. Et qui n'est pas celle qui est la mieux rémunérée. Hein. Aujourd'hui, vous regardez la PAC, hein, soyez tranquille. C'est du côté des très gros céréaliers que ça se passe. Est-ce que vous êtes un ovni ou bien est-ce qu'au contraire, effectivement, peut-être, est-ce que des jeunes qui ont envie de s'installer, est-ce qu'ils veulent devenir éleveurs, est-ce qu'ils veulent devenir céréaliers, est-ce qu'ils prennent modèle sur vous?
Prendre modèle, je ne sais pas, hein, je n'ai pas cette prétention-là non plus, mais effectivement, le défi de notre profession, c'est de renouveler toutes ces générations d'agriculteurs, c'est de maintenir des installations. Je ne suis pas syndiqué non plus, je précise, c'est un enjeu très très important pour demain, pour garder un maillage social agricole dans notre secteur, du partage aussi, parce que c'est une des valeurs agricoles, beaucoup, le partage et l'entraide qui disparaît aussi progressivement. Pour installer des jeunes, il faut avant tout une certaine rentabilité quand même. On reste des chefs d'entreprise. Voilà. Il faut qu'on gagne notre vie avec notre profession, notre méthode de production. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas l'élevage le plus rémunérateur.
Alors, le domaine de l'eau, aujourd'hui, comment on fait ? Parce que là, je parle effectivement des vaches qui vont boire 40 litres, mettons, en hiver, et puis peut-être 120 en cas de grosse sécheresse. Comment on aborde ça aujourd'hui ?
On aborde ça, on fait sans. Moi, je fais sans. Je ne vous cache pas que si j'avais de l'irrigation, ça pourrait sécuriser peut-être quelque part mon système fourrager et mon revenu.
Ça, on peut l'entendre. Bien sûr.
Après, il y a la question du partage de l'eau, c'est délicat. Surtout nous, en zone littorale, on est sur des terres argilo-calcaires très superficielles, au moins sur ma commune. Donc si on n'a pas d'irrigation, les rendements sont relativement marginaux et à la limite de la rentabilité, quoi. Après, effectivement, vous avez évoqué tout à l'heure les bassines, c'est un sujet très très controversé.
Ah bon ?
Bon, voilà, elles ont certainement leur utilité. Il faut aussi réfléchir à peut-être à une meilleure répartition de l'eau entre agriculteurs et entre producteurs.
Oui. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous allez renoncer et d'autres, au contraire, où vous allez pouvoir gagner avec ce qui est en train avec cette bascule, voilà. Est-ce que vous aurez peut-être moins de bêtes ? Je ne m'en rends pas compte du tout si ça va être ça.
Oui, c'est passé par ça. Hein. C'est passé par ça. De toute façon, on est monté, on faisait il y a encore une quinzaine d'années plus de 200 vélages. Aujourd'hui, on a diminué d'un quart, quoi, en fait. D'accord. Mais on a aussi diminué notre rémunération quasiment d'un quart. Aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, philosophiquement, je suis en phase avec moi-même.
Oui.
Économiquement, c'est plus tout à fait la même chose.
Oui. Non, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque nous, on aide, on va dire, des éleveurs à travers, enfin, principalement des premiers leviers, c'est la PAC. Hein, donc, c'est ça. Là-dessus, on peut se dire, bon, OK, ça fonctionne pas trop mal. On n'est pas simplement chez vous que dans le temps d'euros donc à l'hectare. C'est pas, peut-être aussi en tant que céréales avec les protéagineux que vous sortez.
Oui, on produit, on est autonome à 95% sur l'exploitation. En fait, on est quasiment autonome d'un point de vue alimentaire.
Alors ça, c'est intéressant quand même, parce que vous ne dépendez pas donc de soja transgénique et tout ça.
Exactement, qui sur le port ni de la même Rochelle. De mon voisin céréalier, ni je suis quasi autonome.
Ok. Bon, donc c'est intéressant d'avoir effectivement votre témoignage, vous le ferez. Je reviens un tout petit peu avec vous, Mohamed. On a d'autres thèmes, alors on va continuer donc évidemment à picorer dans l'univers des uns et des autres. Notre modification physique du littoral, tiens, tenez effectivement, les risques d'inondation, de submersion. Donc nous avons eu donc sous Lac-sur-Mer, donc on a vu ce merveilleux signal, c'était fabuleux. Donc l'immeuble en question s'appelait le signal. Bah oui, c'était, il portait bien son nom, donc celui-là.
Tout à fait, il était à 200 mètres du rivage en 1967, quand il a été construit. Et après, bon, vous savez, la triste fin, il a été démoli en 2022, je crois.
Oui, il était moche, mais quand même, c'est pas pour ça que...
Voilà. Non, mais voilà, simplement, sur le littoral, les côtes basses ou sableuses, en tout cas, côtes très basses, les vasières, bon, c'est le risque de submersion. En revanche, tout ce qui est plage et dunaire, donc toute la côte aquitaine, c'est entre chaque année, en moyenne, entre moins 1 et moins 5 mètres de recul annuel. Et lors des très grandes tempêtes, comme en l'hiver 2013-2014, c'était 10 mètres au droit du Pila, de la dune du Pila. Et la côte basque, malgré qu'elle soit rocheuse, c'est moins 2 à moins 3 mètres par an.
Alors faisons de la pédagogie, il y a de la dilatation, c'est-à-dire que lorsque vous avez du réchauffement climatique, c'est comme lorsque vous mettez sur votre gazinière votre casserole qui est remplie d'eau, et lorsque ça se met à bouillir, ça déborde, c'est un
tout
peu ça l'idée.
Voilà, donc l'élévation du niveau de la mer, bon, c'est depuis 1900, c'est 20 cm à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. L'augmentation de la température des océans fait qu'ils se dilatent et donc ils augmentent de niveau. Et la fonte des glaciers continentaux accentue aussi cette élévation. Donc, trois facteurs. Alors, la vulnérabilité des côtes. Donc, il y a des courants côtiers. Et dans la nature, les courants côtiers, font ce qu'on appelle un transit sédimentaire. C'est-à-dire qu'ils enlèvent par là et ils engraissent par là. Et le garde-manger de ce transit, en fait, de ces sédiments, c'est les apports des fleuves côtiers. Hein, donc, les fleuves qui ramènent. Or, deux phénomènes. On a fait des barrages, donc les sédiments n'arrivent plus jusqu'à la mer, ou en plus faible quantité, sont stockés derrière les seuils, les barrages, etc. On a surexploité les plages pendant des années aussi pour le prélèvement du sable. On a artificialisé la côte, donc on a fait des ports de plaisance, des digues, etc. Et donc on a modifié considérablement la dynamique sédimentaire. Donc il y a des endroits où c'est stocké derrière la digue et de l'autre côté, c'est érodé, donc ça part. Donc finalement, le bilan sédimentaire global, il y a très peu sur les côtes de Nouvelle-Aquitaine ou de Charente, des endroits qui sont en situation d'engraissement en termes de sédiments. C'est plutôt les départs et l'érosion côtière.
Alors ceux qui ont
les secteurs bas lors des tempêtes, c'est les problèmes de submersion.
Bon, mais lorsque j'ai acheté une villa qui s'appelle Les Pieds dans l'eau, la bien nommée, donc il y a une trentaine d'années. Bon, non, ça veut dire que derrière tout ça, il va y avoir aussi un problème de déménagement, on va dire, du territoire quand même.
Absolument.
Donc, parce que les gens, ils ont une vision statique. On a tous, quand je dis les gens, j'en fais partie. On a une vision statique du territoire. On s'est mis à coloniser, si vous voulez, les plages il y a 150 ans. Grâce d'ailleurs à l'énergie, laquelle le chemin de fer, donc le chemin de fer à vapeur, etc. Donc ça a été ça. La balnéothérapie, c'est quand même extrêmement récent. Avant, on avait peur de la mer, comme on avait peur effectivement aussi de la montagne. Donc voilà, on a une vision qui est statique. La réalité, c'est que la mer n'est pas statique déjà parce qu'elle bouge deux fois par jour. Ça, c'est formidable. Ça s'appelle les marées, phénomène tout à fait naturel. Là, maintenant, elle est en train de remonter. On se souvient aussi qu'à Brouage, donc un petit pas très loin d'ici, superbe cité, bah c'était un port, évidemment, qui a gagné sa vie avec le sel, entre autres choses. Alors, ça va être quoi? Parce que là aussi, il va falloir quand même sacrément de plus que de la pédagogie. Quoi.
Tout à fait. Donc, la nature, elle a l'horreur du vide, comme on dit. Donc, il y a une dynamique naturelle. Et les humains, hein, donc, deux choses. Donc, ils pensaient être comme maître et...
possesseur
et possesseur de la
Merci
nature,
Descartes,
donc
oui.
Maîtrise totale.
Ça a commencé par Aristote, hein, quand même, voilà. Qui a dit des choses formidables. Mais il a commencé, il avait fait le travail déjà, il avait bien labouré le terrain pour Descartes.
Voilà, donc on a artificialisé, on a modifié un certain nombre de choses et la méconnaissance du fonctionnement des systèmes naturels à travers la dynamique. Que ce soit les courants côtiers, que ce soit le rôle des tempêtes, que ce soit les phénomènes de convergence entre des situations comme Xintia, où on avait une marée d'équinoxe très élevée, et une tempête, donc une situation de basse pression, eh bien, font que vous avez des phénomènes qui sont exacerbés. Et il y a une chose, et c'est Emmanuel Garnier, l'historien, qui a beaucoup travaillé sur le littoral charentais, c'est la perte... La perte de la mémoire du risque. Les sociétés avant 1850 étaient loin de la côte. Hein, donc, c'est effectivement le chemin de fer et la vogue des bains de mer et ensuite tout le tourisme balnéaire qui a. Et on a commencé à urbaniser sur les cordons dunaires qui alimentaient les. Donc on a stérilisé totalement. Les dunes côtières, on a construit, que ce soit à la Bolle, que ce soit à la Marraine, que ce soit à, comment ça s'appelle, effectivement, sous Lac-sur-Mer. Et sur le littoral méditerranéen, idem, Languedoc, hein, je parle Languedoc-Roussillon. Donc on a totalement déstabilisé le fonctionnement de ces systèmes naturels, de cette de ce transit sédimentaire. Et voilà. Ça, c'est pour l'érosion côtière.
Non, mais ça, c'est important. C'est la perte de mémoire. C'est ce que tu es en train de dire. C'est que, en général, la moyenne, c'est 7 ans.
Tout
on oublie au bout de 7 ans qu'il y a eu quelque chose d'important.
Et Emmanuel Garnier a montré qu'il y a eu beaucoup d'épisodes, donc avant, bien avant que Cynthia, il est remonté jusqu'au XVIIe siècle, hein, et retrouvé les dégâts à travers les archives causées. Et donc, à partir des dégâts causés et les profondeurs, en tout cas, des habitats qui étaient affectés, il a montré que, en fin de compte, on a eu déjà des épisodes aussi violents que Cynthia. Mais ça, la culture du risque, la mémoire du risque, on l'a oublié. Bon, maintenant, on revient en mettant des repères, hein, des niveaux de crue, des niveaux de submersion, etc., pour que les générations, celles-là, hein, qui nous vont pas piocher dans les archives, voient que, attention, là, la mer est arrivée jusque-là. Hein, on le voit au niveau du Gabu, par exemple, à La Rochelle maintenant, où l'on des cours d'eau, les repères de crues qui sont devenus obligatoires, donc les crues historiques.
Oui, ça, Isabelle Autissier, ma copine, effectivement, à La Rochelle, avait beaucoup insisté et ça a bien marché. Il y a un trait bleu autour des arbres pour montrer la hauteur d'eau, effectivement, d'abord qui avait eu lieu et puis, effectivement, qui pourrait revenir. Pascal, c'était pas prévu, mais j'ai envie que tu prennes le micro parce qu'il y a un point aussi important. Là, on est en train de décliner, en fait, la boussole de Néoterra, donc, qui sert un peu de feuille de route sur les décisions politiques au sens large du terme. Il y en a un, donc, il a commencé à en parler sur la participation locale et l'appropriation citoyenne. Ça, c'est vraiment ton truc. Et c'est vrai que, comme il y a de nouveaux arrivants, on va dire, ce qui est normal, hein, le brassage, c'est formidable sur ce territoire comme ailleurs, il y a des habitants qui ne se reconnaissent pas toujours dans la domination, par exemple, Marais Poitevin, qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement donc, hydraulique, qui est extrêmement complexe, etc. Alors, comment on peut mettre ces gens-là dans la boucle aujourd'hui? Comment on peut les aider pour que chacun ne soit pas dans son silo, parce que sinon on ne va pas s'en sortir?
Ça rejoint ce que je disais en introduction, c'est-à-dire qu'on a un premier travail à faire pour que l'ensemble de ceux qui participent à la vie du Marais Poitevin, donc l'ensemble des élus, mais également les associations, les APNE, les chasseurs, les pêcheurs, etc., qui sont à nos côtés, au-delà des entrepreneurs, je les oubliais, mais l'ensemble des chambres consulaires sont bien sûr membres du parc. Il faut former, informer, acquérir une culture commune. Hein, très souvent, par exemple, dans le Marais Poitevin, quand on est du marais mouillé, on considère que le Marais Poitevin, c'est la Venise verte. Quand on est en marais desséché, autre chose. Et puis en zone littorale, sur la baie de l'Aiguillon, on a encore une autre réalité. Or, c'est l'enchevêtrement de ces réalités qui fait Marais Poitevin. Donc c'est parce que l'homme a construit un réseau hydraulique fantastique, parce qu'il y a ajouté des éléments naturels comme les plantations d'arbres, hein, qui ne sont pas venus comme ça par hasard. On parlait des frênes tout à l'heure. On est touché par une autre crise qui est la calarose, qui fait qu'on va devoir les remplacer. Donc on a, dans les nombreux défis que nous avons, le remplacement de 400 000 frênes dans les années qui viennent. Donc on s'y emploie, on en plante 5-6 000 par an et on va accélérer le processus. On a également des peupliers, on les entend, cette petite musique de fond. Et c'est important puisqu'il y a une économie du peuplier dans le Marais Poitevin avec des entreprises qui en vivent et qui en dépendent. Et donc, voilà, tout ça fait partie des missions qui sont les nôtres. Mais au-delà des élus, des membres du conseil syndical, c'est l'ensemble des populations. Et les populations, il y a 50 ou 100 ans, on se passait le relais de père en fils. On était cultivateurs dans le Marais Poitevin, etc. etc. Et il y avait une connaissance du territoire sûrement plus forte, peut-être limitée géographiquement, mais plus forte. Aujourd'hui, on a beaucoup d'habitants qui viennent habiter, on a les mutations comme d'autres territoires, et il faut qu'on les emmène, qu'on leur donne les informations nécessaires et qu'on les associe à nos processus de décision. Ça, c'est une petite révolution démocratique qui est loin d'être gagnée, mais qui est à tout prix nécessaire, parce que si on n'embarque pas les populations, ben, on a des sujets d'incompréhension. On évoquait celui des réserves de substitution tout à l'heure. C'est un sujet d'incompréhension de ce qui est à la base une solution et qui est devenu une problématique sociétale, mais sur d'autres sujets.
Ce premier épisode est diffusé aujourd'hui et rediffusé ce mardi à 18h. Pour la suite, écoutez Pigouille Radio, mercredi à 18h ou vendredi à 10h, ou les deux.
On vous embarque.
On vous embarque.
On vous
embarque.
On vous embarque.
On vous embarque.
On vous embarque.
On vous embarque.
On vous embarque.
Culture.
On y était.
Concert.
On y était.
Sortie.
On y était.
Spectacle.
On y était.
Festival.
On y était.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
On vous embarque.